Lizzie présente Codex 632, le secret de Christophe Colomb. De José Rodríguez dos Santos, lu par Philippe Allard. À Flor Bella, Katharina et Inès, les trois femmes de ma vie. Christophe Colomb n'a découvert aucune île ni récif aussi solitaire que lui-même. Ralph Waldo Emerson. Note de l'auteur. Tous les livres, manuscrits et documents mentionnés dans ce roman existent réellement, y compris le Codex 632. Prologue. Rio de Janeiro. Quatre. Le vieil historien ne pouvait pas savoir qu'il ne lui restait que 4 minutes à vivre. Les portes grandes ouvertes de l'ascenseur de l'hôtel semblaient attendre de le piéger, prêtes à se refermer sur lui. Il entra, appuya sur le bouton du 12e étage et profita de son ascension pour s'examiner dans le miroir de la cabine. Il se dit qu'il avait tout du vieil historien hagard. Le haut de son crâne était dégarni et ses rares cheveux étaient devenus aussi blancs que la barbe éparse qui cachait les rides profondes de ses joues creuses. Inconscient de ce qui allait bientôt lui arriver, il se força à sourire et étudia ses dents tordues. Elles étaient jaunes et ternes, à l'exception de quelques-unes, celles en ivoire. Blanches, mais fausses. 3. Le discret ding de l'ascenseur lui indiqua qu'il était arrivé au 12e étage. L'historien s'engouffra dans le couloir, tourna à gauche et chercha à tâtons la carte magnétique dans sa poche droite. Il glissa la clé dans le lecteur et une lumière verte s'alluma. Il pressa la poignée, puis entra dans la chambre. 2. Le souffle froid et sec de la climatisation lui donna la chair de poule, mais ce mur d'air frais était agréable après une matinée passée dans la chaleur écrasante de l'extérieur. Il prit un jus de fruits dans le mini-bar installé dans un coin de la chambre et se dirigea vers la grande fenêtre. Avec un soupir, il admira la vue des buildings qui formaient la ligne d'horizon de Rio. Face à lui se dressait un petit bâtiment blanc de 5 étages, au sommet duquel l'eau turquoise d'une piscine miroitait sous le soleil offensif de ce début d'après-midi. Les collines qui encerclaient la ville formaient une barrière naturelle entre le gris du béton urbain et le vert luxuriant de la jungle environnante. Au sommet du Corcovado, la plus haute montagne de la cité, se dressait le Christ Rédempteur, une mince silhouette couleur ivoire, fragile et minuscule, embrassant la ville depuis les cieux, en équilibre au-dessus de l'abysse. Un duvet de nuages blancs s'était accroché à la poutre horizontale du célèbre crucifix. L'historien repensa aux derniers mois de sa vie et aux secrets qu'il avait exhumés, une découverte capitale, sans doute la plus importante de sa carrière. Il réfléchit à la prochaine étape. Ce qu'il ferait de toutes les informations qu'il avait amassées serait décisif, absolument décisif. Il devait se montrer prudent. 1. Le vieil homme porta la bouteille à sa bouche. Le jus coula dans sa gorge, frais et sucré. La mangue était son fruit préféré, le sucre en faisait ressortir la douce acidité. Les barres de Rio extrayaient le jus à partir de fruits frais qu'ils épluchaient sur place pour qu'ils conservent leurs fibres et leurs vitamines. Il le but les yeux fermés, le savourant jusqu'à la dernière goutte, lentement, avec gourmandise. Lorsqu'il eut terminé, il rouvrit les yeux et contempla avec un air de satisfaction le bleu resplendissant de la piscine sur l'immeuble d'en face. Ce fut la dernière chose qu'il vit. Une douleur fulgurante traversa sa poitrine. Il fut pris de convulsions, de spasmes incontrôlables. Une douleur insupportable. Il s'effondra sur le sol. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, puis se fixèrent, vitreux, sur le plafond. Étendu sur le sol, les bras et les jambes écartés, son corps fut secoué d'une dernière contraction. Ses paupières ne se refermeraient jamais. Et sa découverte serait une nouvelle fois étouffée par le silence. Chapitre 1. Lisbonne. Si quelqu'un avait dit à Tomáš Noronha, ce matin-là, qu'il passerait les prochains mois de sa vie à parcourir le monde pour démêler une conspiration vieille de 500 ans et résoudre un des plus grands mystères de l'âge des découvertes, il ne l'aurait pas cru. C'était pourtant ce qu'il attendait. À 9h30, il se gara sur le parking de l'université, encore à moitié vide. Les étudiants étaient rassemblés dans le hall, absorbés par leurs bavardages matinaux, et il entendit sur son passage les murmures émoustillés de quelques jeunes filles. Tomáš était un homme de 35 ans, grand, aux yeux verts pétillants, hérité de son arrière-grand-mère, une belle Française. Il ouvrit la porte de la salle T9, actionna une série d'interrupteurs et posa sa sacoche sur le bureau. Les étudiants arrivèrent en masse et se dispersèrent en groupe dans la petite salle, s'asseyant pour la plupart à leur place habituelle. Tomáš sortit ses notes de sa sacoche et s'assit, attendant que tout le monde s'installe et que les retardataires arrivent. Il étudia leurs visages, des filles en majorité. Certains étaient encore ensommeillés, d'autres dopés à la caféine et pleins d'entrain. Au bout de quelques minutes, il se leva et salua la classe. « Bonjour à tous. »«
Bonjour, »
répondirent en chœur les étudiants.
« La dernière fois, »
commença Tomáš en faisant quelques pas devant la première rangée de tables,
« nous avons examiné une stèle en l'honneur du dieu Marduk et analysé les symboles d'Akkad, d'Assyrie et de Babylone. Nous avons ensuite parlé des Égyptiens et des hiéroglyphes, en lisant des extraits du Livre des Morts, les inscriptions sur le temple de Karnak et plusieurs papyrus. Pour conclure notre discussion sur l'Égypte, nous allons aujourd'hui apprendre comment les hiéroglyphes ont été déchiffrés. »
Il s'immobilisa et parcourut la salle du regard.
« Quelqu'un a-t-il une idée ?»
Les étudiants souriaient, habitués aux tentatives maladroites de leurs professeurs pour les faire participer.
« La pierre de Rosette ?»
dit un étudiant.
« Oui, » répondit Tomáš. « La pierre de Rosette a bien joué un rôle, mais on ne peut pas dire qu'elle ait été le seul facteur, et elle n'a pas non plus été le plus important. »
Les étudiants semblèrent surpris. Celui qui venait de répondre à la question parut dépité. D'autres remuèrent sur leurs chaises.
« Donc ce n'est pas la pierre de Rosette qui a fourni la clé pour déchiffrer les hiéroglyphes ?»
demanda une jeune fille à lunettes, petite et potelée, une des étudiantes les plus attentives et les plus impliquées. Tomáš sourit. Amoindrir l'importance de la pierre de Rosette avait produit l'effet escompté. Il avait réussi à réveiller la classe.